Chers auditeurs, bonjour. En ce quatrième dimanche de carême, nous sommes à Saint-Germain-l'Auxerrois, dans le premier arrondissement de Paris. La présidence et la prédication de notre messe seront assurées par le père Henri de Villefranche, chapelain à Notre-Dame de Paris. À l'orgue de chœur, nous entendrons Yves Castagnet, au grand orgue Johann Vexot. Les chants seront animés par le jeune ensemble de la maîtrise de Notre-Dame de Paris, dirigé par Émilie Fleury.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à la messe capitulaire de Notre-Dame qui a lieu à Saint-Germain-l'Auxerrois et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur les ondes de France Culture ou de Radio Notre-Dame pour vivre cette mi-carême, cette étape où l'idée est de se rendre compte si nous avons progressé. Nous sommes invités à nous réjouir parce que la méditation, la prière, la miséricorde envers nos frères, le jeûne, nous entraînent à mieux percevoir comment Dieu, combien Dieu est présent parmi nous. Et l'enjeu final du carême, c'est de mesurer la vérité de la résurrection en Jésus et en nous-mêmes. C'est à la lumière de cette victoire sans cesse à découvrir que nous reconnaissons que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. En paix, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du deuxième livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fut publié dans tout son royaume et même consigné par écrit Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur.
De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur.
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde jamais, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, Dieu est riche en miséricorde, nous le reprenons avec saint Paul, mais la manière dont il nous conduit n'est pas pour autant une manière facile. Et l'ambivalence, par exemple, de la figure du serpent de bronze pour conduire son peuple dans le désert et qui prépare la figure du Christ en croix pour guider notre vie n'est pas recevable forcément au premier coup d'œil. Le serpent, par exemple, suscite plutôt la peur. Oui, mais nous le voyons sur le caducée des médecins ou celui des pharmaciens. Donc il y a toujours une ambivalence et il faut trouver le juste chemin par lequel Dieu nous conduit. Le serpent est rusé, mais le même mot en hébreu signifie aussi qu'il est nu. Alors précisément, cette figure nous entraîne à bien reconnaître comment nous pouvons nous laisser guider par un Christ qui affronte la croix avant de se manifester comme ressuscité. Comment regarder le Christ en croix? Nous avons eu à Notre-Dame pendant ce carême la figure de Claudel qui a consacré un magnifique ouvrage à cette contemplation. Et nous devons nous entraîner à l'ambivalence du serpent pour arriver à discerner le côté fructueux de la croix en même temps que son côté terrible. Et il en est ainsi pour discerner l'ensemble de la volonté de Dieu, depuis le début dans le jardin de la Genèse. Rappelons-nous, lorsque Dieu dit que nous mangerons de tous les arbres du jardin, c'est une promesse qui porte sur la totalité. Quand il nous dit qu'il y a un arbre dont on ne mangera pas, ce n'est pas pour contrarier la première idée, c'est pour nous dire on ne fait pas tout en même temps. Il faut tenir compte des circonstances et notamment d'une progression. Dans les récits bibliques, n'oublions pas que le serpent va devenir le brûlant. Le brûlant, ça se dit en français maintenant, ça se dit un séraphin. Et on chante que mille séraphins, mille chérubins entourent l'enfant Jésus. Vous voyez comment ce qui est négatif au départ peut se convertir en positif après. Ça, c'est le chemin de Dieu qu'il nous faut discerner. Et si le serpent est un rusé, nous aussi, nous devons ruser avec l'interprétation de ce que Dieu nous demande pour bien percevoir ce qu'il veut, dans notre temps, nous dire de faire. Et c'est ainsi que les grands couples que nous avons dans l'évangile de saint Jean de ce dimanche sont difficiles à cerner. Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'on s'en tire facilement ? Non, le jugement de Dieu, simplement, en notre temps, n'est surtout pas à comprendre comme une condamnation. C'est une manière d'apprendre à estimer ce qui fait du bien et estimer ce qui fait du mal. Mais devant quelqu'un qui a choisi la mauvaise option, surtout ne pas condamner. Ça n'empêche pas d'avoir des idées. Souvent, on confond. Pour autant, lorsque Dieu juge, il ne se contente pas d'émettre des idées. Dieu fait quelque chose que personne d'autre ne peut faire. Dieu, quand il juge, il apporte la justice. Il est capable de redresser, de reconstruire celui précisément qui a mal agi. Et tout ce discernement doit nous aider à nous conduire correctement, non seulement vis-à-vis de nous, mais vis-à-vis de notre prochain, et même vis-à-vis de la société et du monde. Et s'attacher à la manière dont Dieu lui-même regarde ce qui se passe. Car ce que l'Évangile dit ne doit pas être réduit simplement à des idées. En fait, il y a d'abord toute une histoire, à commencer par l'histoire d'Israël, histoire de chair et de sang qui échappe justement à toute abstraction ou au dualisme qui, au fond, entraîne souvent de la confusion mentale. Et si on veut bien comprendre la leçon de Saint Jean, il faut avoir en tête la longue pérégrination d'Israël dans le désert que nous lisons sans cesse pendant ce temps du carême, pour comprendre qu'il y a à la fois une sorte d'impertinence de la part des hommes, en même temps qu'une extraordinaire fidélité de la part de Dieu. « Retournons en Égypte !» ne cesse de dire Israël, têtu comme nous. « Je vous conduis en terre promise !» dit de son côté Dieu, dans le feu et dans la nuée. Et finalement, le peuple de Dieu et nous, marchant comme un âne, à reculons, finira par se retrouver en terre promise, sans forcément trop avoir compris comment Dieu s'y était pris pour le conduire, malgré notre endurcissement. C'est comme les signes que Jésus a donnés pendant son ministère. Plus les signes de bienveillance s'accumulent, moins on le comprend. Et le sommet, ça sera la résurrection de Lazare. Quand on pense que c'est ce geste de vie qui va entraîner la condamnation à mort du Seigneur, on se dit que le serpent qui veut notre confusion mentale doit être combattu et nous devons être plus rusés que lui. En réalité, la croix du Christ, la mort du premier-né, qui est plus forte que tous les signes, tous les miracles possibles et imaginables, c'est elle qui nous fait reconnaître et la violence du péché et le fait que ça ne nous conduit pas au pessimisme ou à la condamnation, mais à la guérison même de ce péché, le salut, qui exprime l'amour gratuit de Dieu toujours offert. C'est cette intervention décisive, toujours surprenante et même disproportionnée, qui est capable de nous libérer de l'exigence tyrannique du mensonge. Le mensonge humain qui est en nous, celui du serpent, et qui ne sait reconnaître ni la gravité du péché, ni la vérité de la miséricorde. Alors évidemment, ça ne s'accorde jamais. Et tout ce à quoi on arrive, c'est une sorte de culpabilité malsaine et mortifère qui nous entraîne dans un cercle vicieux. Oui, le discernement des signes tels que Dieu veut nous exercer à les discerner dans notre vie mentale et spirituelle bouleverse aussi bien la théologie, car Dieu est plus grand qu'on ne l'imaginait, mais bouleverse aussi notre anthropologie, car des voies nouvelles s'ouvrent à nous. Au fond, mes amis, le carême est un temps qui nous permet, en toute simplicité, en toute humilité, d'oser aborder le point de vue de Dieu lui-même. Et alors, on peut considérer chaque situation, même la plus embrouillée, même la plus désespérée, avec précisément espérance. Là où nous sentons, où nous voyons des situations inextricables, Dieu ouvre des voies. Bernanos, qui sera le thème de la conférence de carême de cet après-midi à 16h30, ici même et sur France Culture, nous conduit à nous dessaisir de la manière habituelle, qui est pauvre, qui est mauvaise, de juger soi-même et notre prochain et le monde, pour nous habituer à songer que Dieu sûrement voit autrement. Tel est le travail du chrétien, du fidèle, de garder cette espérance vive pour lui, mais aussi pour les autres, car le bien survient toujours de manière impromptue et quasiment systématiquement de là où on ne l'attend pas. Et c'est le sens de toute la narration biblique, c'est le sens des lectures de ce dimanche, et c'est le sens aussi de la célébration de l'Eucharistie, car elle célèbre l'alliance nouvelle et éternelle que Dieu sans cesse fait vivre à notre histoire. Amen.
L'homélie que nous avons entendue nous a été donnée par le Père Henri de Villefranche. Si vous souhaitez en recevoir le texte, vous pouvez nous le demander à l'adresse suivante, Homélie Radio Diffusée, 222 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008 Paris. Vous pouvez aussi la réécouter ainsi que l'intégralité de cette messe sur le site internet de France Culture, radiofrance.fr.
Credo in unum Deum, Dieu, frères et sœurs, en cette mi-carême, d'être bien exercé à saisir ce que Dieu dit afin de mieux faire ce qu'il demande.
pour les catéchumènes qui sur toute la terre naîtront de l'eau et de l'esprit au cours de la vigile pascale, afin qu'ils soient affermis et illuminés sur leur chemin, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la joie, afin qu'ils découvrent la tendresse de Dieu qui a envoyé son Fils dans le monde pour le sauver, prions le Seigneur. Que Dieu donne à son Église et au diocèse de Paris en particulier la joie de voir naître et grandir de nouvelles vocations de prêtres, prions le Seigneur.
Exauce nos prières, Dieu très bon, comme tu as exaucé la prière de ton Fils bien-aimé au calvaire, lui que tu as relevé d'entre les morts et qui est vivant pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement, accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Dominus vobiscum. Gracias hagamus Domino Deo nostro. Veredignum et justum est, et cum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui filis tuis ad reparandum mensium puritatem, tempus precipum salubriter statuisti, quo mente ab inordinatis affectibus expedita, sit incumberent transituris, und ut rebus possius perpetua inerent, et ideo cum sanctis et angelis tuis versis, te collademus sine fine dicentes.
Sancte Spiritus,
est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Mysterium fidei.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage.
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Germain d'Auxerre et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Per ipsum et cum ipso et in ipso, est ibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater
délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons alors libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous t'y attendons maintenant que se réalise la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, qu'elle en soit le signe parmi tous les hommes. Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La charité du Christ, donne-nous un signe de la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Oh,
Rendons grâce ensemble au Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans le monde, nous t'en prions, illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, et que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Je vous rappelle donc les conférences de Carême qui continuent sur le thème des sacrements, dont le témoignage vient aussi des grands auteurs français du XXe siècle. Donc aujourd'hui, c'est Georges Bernanos, présenté par Philippe Richard. J'avoue que j'ai emprunté à sa conférence quelques éléments, notamment dans la conclusion de l'homélie de ce jour. Donc, nous jouons dans la continuité et l'approfondissement. C'est très amical. La semaine prochaine, ça sera 8 semences. N'oublions pas non plus, pendant le temps du carême, ici même à Saint-Germain, la vénération de la couronne d'épines, tous les vendredis, de 15 à 17 heures.
Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Ite missa est.
Heureux dimanche.
Ainsi va s'achever dans quelques instants cette messe du quatrième dimanche de Carême, célébrée à Saint-Germain-le-Cérois. Nous remercions le père Henri de Villefranche qui a présidé et prêché, Émilie Fleury et le jeune ensemble de la maîtrise de Notre-Dame de Paris pour les chants, Johan Vexot au grand orgue, Yves Castagnet à l'orgue de chœur, et pour la prise de son, Patrick Muller et Benjamin Reyes. Dimanche prochain, 17 mars, 5e dimanche de Carême, nous serons à nouveau à Saint-Germain-de-Cérois. La présidence et la prédication de cette messe seront assurées par le père Henri de Villefranche. Cet après-midi, à 16h30, nous entendrons la 4e conférence de Carême de Notre-Dame de Paris du cycle « La mystérieuse musique des sacrements, littérature et spiritualité ». Aujourd'hui sur le thème « Georges Bernanos, le don des larmes » par Philippe Richard. Je rappelle que vous pouvez nous écrire pour nous demander le texte de l'homélie d'aujourd'hui à l'adresse suivante. Homélie radiodiffusée, 222 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008 Paris. Homélie radiodiffusée, 222 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008 Paris. Vous pouvez aussi réécouter l'intégralité de cette messe ou la télécharger sur le site internet de France Culture, radiofrance.fr. Et dans un instant, nous retrouvons l'esprit public avec Hervé Gardette.